Vous écoutez France Culture.
Métro Châtelet, tu es à l'ouest.
Bon voyage, messieurs, dames. Merci pour la musique. Excusez-moi pour le dérange. Bon voyage.
Vigipirate. Donc contrôle, police.
France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans les 15, 16 et 17 novembre dernier sur le thème « Repousser les frontières ».
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau.
Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée.
Aujourd'hui, quatrième émission, Les Savoirs Nomades, avec Bruno Carsanti, sociologue et philosophe, Bruno Patineau, journaliste et essayiste, Catherine Perret, philosophe.
Bruno Carsanti est la charnière comme ça de la sociologie et de la philosophie. Les sciences humaines d'un côté, la philosophie de l'autre. Il est de ceux qui pensent que la naissance des sciences humaines et sociales, comme on les appelle, est peut-être le grand événement de notre modernité, et que des disciplines comme la sociologie ou l'anthropologie sont indissociables des sociétés modernes, que c'est la manière dont les sociétés modernes se pensent elles-mêmes, que c'est la manière dont nous tous, nous pouvons saisir notre expérience, non seulement collective, mais aussi individuel. Bruno Carsanti a signé de très beaux textes sur des grandes figures de la sociologie, comme Auguste Comte, Durkheim ou Marcel Mauss. Lui-même est philosophe, donc il travaille ses textes de sociologie en philosophe. Et il a publié un très bel essai chez Gallimard cette année même, qui s'intitule « D'une philosophie l'autre, les sciences sociales et la politique des modernes ». C'est une série de dialogues comme ça entre Bruno Carsanti et des auteurs, de grands auteurs classiques comme Rousseau, Auguste Comte, encore une fois, Marx, ou des gens plus contemporains comme Bourdieu, Foucault ou Boltanski. Et l'autre idée, et je terminerai là-dessus, très forte qu'on trouve dans ce livre, c'est que si la philosophie veut continuer à jouer un rôle dans notre vie sociale, collective et citoyenne, eh bien elle doit à tout prix tenir compte des acquis des sciences humaines et sociales, comme on les appelle, et qu'elle ne peut pas continuer à faire travailler ou à travailler ces vieilles notions de contrat, de droit, de souveraineté et de frontières, justement, sans se placer à la charnière de ces concepts à elle, qui viennent de très loin, et de ceux plus récents des sciences humaines et sociales.
Sous l'appel à repousser les frontières, j'ai pris l'intitulé à la lettre, on discerne une intention d'ouverture à laquelle on incline favorablement. Mais si on ne se hâte pas d'interpréter, qu'on écoute l'injonction sans a priori, on entend alors une interrogation, je crois, inquiète, une certaine inquiétude sur la politique moderne. Celle-ci, au fond, quand on y réfléchit, n'a jamais rien fait d'autre que repousser les frontières, et cela ne l'a pas toujours rendue plus juste. Elle l'a fait pour le meilleur, avec la conviction de diffuser toujours plus largement un projet d'émancipation dont on admet par principe qu'il doit sans cesse être relancé. Mais elle l'a fait aussi pour le pire, avec la violence qui consiste à ne plus respecter les frontières que les sociétés humaines peuvent encore se donner à elles-mêmes dans un monde où, somme toute, ce projet d'émancipation n'apparaît plus que comme une invention culturelle particulière située armé de la bonne conscience d'incarner l'universel à lui seul. Le plus problématique est évidemment que les deux côtés aient pu se présenter comme les deux faces d'une même pièce. Au nom de l'universalité de droit, s'exercerait alors la domination de fait d'une culture sur une autre, la mise sous tutelle d'un peuple par un autre, voire, au sein de chaque société, l'exploitation d'une classe par une autre. Alors on dira qu'on n'en est justement plus là et qu'une saine leçon de relativisme a déjà été tirée de notre passé, de la conscience de la grande contradiction est née cette volonté d'entrer dans une ère postmoderne marquée par un plus haut degré de lucidité. Alors en procédant ainsi, il n'est pas certain pourtant qu'on ait vraiment fait les comptes avec ce qu'on entend par modernité. Plus exactement, je crois qu'on s'est accommodé d'une vision abstraite des droits de l'homme que je voudrais corriger quelque peu Mais pour la corriger, il convient d'adopter justement ce point de vue qui se nourrit plus des sciences sociales que de la philosophie politique classique, ou en tout cas qui introduit justement dans la philosophie politique un regard de sciences sociales. L'une des grandes questions actuelles en philosophie politique contemporaine est de savoir comment relier la révolution des droits de l'homme au principe national, voire nationaliste, dans lequel cette affirmation s'est faite. Cette corrélation a-t-elle été nécessaire ou contingente? Rappelons qu'elle était aussi étroite que possible dans la déclaration de 1789. Elle n'en impliquait pas pour autant une identification stricte entre citoyenneté et nationalité. L'identification première est plutôt celle entre l'homme et le citoyen, article 1, et elle s'opère au niveau des droits fondamentaux, ces droits que l'article suivant énumère, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On vient immédiatement à l'article 3, et c'est là le problème. L'article 3, en effet, nous parle de la souveraineté. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Toute autorité, dans la société que décrit le discours révolutionnaire, se ramène donc à la même source. Et vous entendez qu'elle a pour but d'exclure toute source d'autorité alternative. On sait aussi que, dans le vocable des déclarations ultérieures, cette référence à la nation se fait moins prégnante, mais elle ne disparaît pas. Elle se complique très vite de la référence au peuple, ou encore, selon la formule qui confine à l'oxymore, à l'universalité des citoyens. Ou bien encore, comme dans la Constitution de 1848, à l'universalité des citoyens français. Alors, cette dernière formulation suffit à poser le problème sur lequel la politique moderne vient effectivement buter. Comment l'universalité, dont l'idée de droit de l'homme et du citoyen est porteuse, peut-elle se transposer non seulement un ensemble restreint de citoyens, mais encore un ensemble de citoyens nationalement qualifiés, qualifiés en tant que nationaux, c'est-à-dire comme français. Certes, on dit bien citoyen français et non pas français citoyen. La nuance n'est pas rhétorique, elle est essentielle, et tous les débats faussés sur l'identité nationale pêchent délibérément, sans doute, de ne pas le voir. C'est depuis la citoyenneté que l'idée de nationalité est concevable en tant qu'idée refondant la souveraineté en contexte moderne. La différence est de toute évidence que dans l'idée de citoyenneté, c'est à une certaine déconstruction de l'identité qu'on a assisté, condition de sa reconstruction sur un autre plan. Oui, mais alors, quel plan? Alors, pour la clarté de l'exposé, je vais m'en tenir aux formulations de la première déclaration, celle de 1789, et je prendrai appui sur la remarque déjà amorcée concernant le fait que la nationalité soit affaire de souveraineté, que l'idée d'État-nation est de ce fait impliquée dans l'attribut essentiel de la nation et que, fondamentalement, cette idée s'expose comme une restriction dans l'exercice des autorités dans l'État. J'ai dit qu'il y a la réduction à une source unique, mais c'est insuffisant, parce que si on se limite à dire cela, on ne voit pas en quoi on serait sorti de la logique monarchique qui prévalait dans l'Ancien Régime. On serait seulement face à son inversion par le passage de l'unité de la volonté du monarque à celle de la volonté générale du peuple. La nation interviendrait comme une garantie de cette inversion, sans changer la structure absolutiste de l'autorité. Dans ce cas, on aurait d'ailleurs une instabilité congénitale léguée par l'héritage révolutionnaire, déchirée entre la dictature révolutionnaire et le mythe de la démocratie directe. Or, il est clair qu'avec l'irruption de la souveraineté comme nationale, on a affaire, ou on voudrait avoir affaire, à autre chose que cela. Alors, en quoi consiste cette différence? On dira qu'elle tient justement au fait qu'elle découle de ce que les individus qu'elle réunit sont justement des citoyens, et donc au corps politique singulier qu'ils forment, pour la première fois, semble-t-il. Dans un texte remarquable, Étienne Balibar a cerné avec toute la précision souhaitable, d'un point de vue de philosophie politique, la nature de cette différence historique. Elle tient, selon lui, à la construction de la forme apparemment contradictoire d'une souveraineté égalitaire, d'une souveraineté qui ne se justifie que par la base égalitaire qu'elle se donne dans l'énoncé précédent des droits également partagés par tous ceux qu'on peut dire des citoyens. L'autoconstitution du peuple, réalisée à travers l'attribution réciproque des droits fondamentaux, serait en cela la condition d'un nouveau concept de souveraineté élargi à tous, dans l'élément de l'immanence, je cite le philosophe, élargie en quelque sorte par le bas, sachant que cette production immanente implique une autre logique de formation de l'autorité et de justification de son caractère absolu. En particulier, cette singularité se marque en ce que l'introduction d'une égale liberté attachée à la citoyenneté ouvre de l'intérieur ce concept de citoyenneté à une perpétuelle redéfinition de lui-même qui met en crise le type de clôture, de frontière, d'inclusion que la nation a vocation à réaliser. Alors, il me semble que ce point de vue de philosophie politique ne va pas assez loin dans la compréhension de la différence moderne. Et pour aller plus loin, je m'appuierai sur un sociologue, sur Marcel Mauss, et sur sa définition de la nation. Une nation complète est une société intégrée suffisamment à pouvoir démocratique à quelques degrés, ayant en tout cas la notion de souveraineté nationale et dont, en général, les frontières sont celles d'une race, d'une civilisation, d'une langue, d'une morale, en un mot, d'un caractère national. Alors cette définition de Mauss, elle choque notre sens commun. Le seul fait de parler de caractère national n'est-il pas l'indice d'une forte régression par rapport à l'intégration politique à partir d'un concept ouvert, constamment rouvert de citoyenneté? Mais regardons de plus près et on verra que cette définition contient une autre étrangeté. C'est qu'elle soumet l'idée de souveraineté nationale à une considération graduée et fait de l'exercice d'un pouvoir démocratique à quelques degrés la clé de cette gradation. Il n'y a pas de souveraineté sans lieu de la souveraineté. Dans les éléments qui permettent le tracé de ce lieu, on compte, à n'en pas douter, des fictions, dangereuses sinon incontrôlables, dont Mauss, je vous rassure, avait fait dans les pages précédentes une critique sans concession aucune. Un philosophe contemporain parlerait d'ethnicité fictive ou d'imaginaire national, que le nationalisme se compose avec le racisme et, à certains égards, l'invente dans la modernité fait partie de cette histoire, mais cela ne fait pas dévier le sociologue de ce qu'il a en ligne de mire, point décisif qui n'est pas saisi lorsqu'on se borne à dénoncer les caractères nationaux comme de pure construction à des fins d'inclusion des nationaux et d'exclusion des non-nationaux. Ce point, il tient à l'articulation entre ce qui vient idéologiquement alimenter le caractère national et le type d'existence sociale et politique dont l'idée de souveraineté nationale est en fait l'expression. Le plus singulier de cette définition est de dire que la nation ne se forme que dans le fil d'une existence qui varie sur l'échelle de la démocratisation, c'est-à-dire de la participation des citoyens à quoi ? À l'élaboration des règles à laquelle ils confèrent en commun de l'autorité. Plus encore, il est de considérer le fait social de cette participation en deçà des institutions du gouvernement représentatif en quoi on fait consister notre concept juridico-politique de démocratie. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on n'a pas le même type d'intégration, on n'a pas les mêmes rapports sociaux, dès lors que de la démocratie, et j'emploie ici à dessein le partitif, commence à être vécue au sein de certains groupes. On parle donc, vous voyez, de démocratie, ou plutôt de démocratisation, comme processus social d'un certain genre. Ce déplacement permet de poser la question la plus importante s'agissant des frontières de la nation. Ces productions d'ethnicité fictive, ces opérateurs d'homogénéité que sont la race, la civilisation, la morale, la langue, ces éléments sont-ils des sécrétions regrettables et constamment à conjurer du collectif démocratique ? N'ont-ils rien à voir avec la démocratie ? Ou bien disent-ils tout de même quelque chose de réel et de positif à son propos ? La question de l'intégration nationale, traduite sociologiquement, doit se référer non aux droits de l'individu, mais à une manière de vivre politiquement dont le caractère politique est à un certain degré pris en charge par les membres de cette société. Parler d'ethnicité fictive pour illustrer le caractère national ne serait pas alors tout à fait exact. Pour qu'il y ait nation, il faut que l'on soit déjà loin de ce qu'Aristote appelait les ethnés, distinctes des poleis, par le faible degré de conscience qu'elles avaient d'elles-mêmes et du pouvoir qui les dirige. Mais il faut aussi qu'on soit au-delà des poleis, des cités, dont les divisions statutaires marquent encore une intégration que le sociologue dirait infranationale. Quoi qu'il en soit, la conscience du caractère, si elle se fait à partir de caractéristiques distinctives, doit forcément, dans le cas de la nation, être en mesure de politiser ces caractéristiques. Or, c'est ici que le risque est pris, qui culmine dans la figure moderne du racisme comme sécrétion du national, mais aussi, symétriquement, dans l'argument de la civilisation affectée d'une mentalité supposée distinctive. Le sociologue, lorsqu'il en parle, voit une symétrie entre les deux. C'est que dans les formes profondes de la vie biologique, la race, tout aussi bien que dans les formes élevées de la vie de l'esprit, la civilisation, l'individuation de la nation, sa formation, a voulu s'accrocher. Or, le problème n'est pas qu'elle l'ait fait, mais qu'elle l'ait fait de cette manière. Les frontières se reforment alors, non seulement entre les nations, mais à l'intérieur d'elles, entre les authentiques dépositaires de l'origine ou les authentiques héritiers de la culture. Ce qui se dénonce dans cette prétention à redécouper l'espace n'est pas tant qu'elle procède d'un imaginaire, c'est qu'elle ne correspond à aucune réalité sociale, que l'intégration sociale en quoi la nation consiste s'abolit littéralement dans ses éléments. L'élément biologique, l'élément spirituel n'ont rien de sociaux. Ils ne correspondent à aucun type de relation entre les individus qu'ils rassemblent, mais se bornent à les créditer d'un fond commun de caractère. En cela, ce sont des dissolvants sociaux. Avec le racisme, ce qu'on repère, ce n'est pas une rechute dans l'ethnicité, ce n'est pas une moindre conscience de l'unité politique. C'est au contraire son exacerbation en une conscience malade, c'est une pathologie de la politique, caractéristique des sociétés nationales, pathologie qui naît de la désocialisation du regard politique qu'une société est parvenue à prendre sur elle-même. Alors, je vais en venir maintenant à un autre aspect de la définition maussienne. Nous vivons, ou nous vivrions, depuis 1789, avec l'idée d'une souveraineté égalitaire. Si l'égalité a un sens, nous dit Mauss cette fois-ci, c'est d'abord dans la manière dont elle est pratiquée. Or, cette pratique, ou plutôt cette modalité de leur pratique, découle de ce que la société est parvenue à acquérir une certaine prise sur elle-même. Les droits de l'homme ne sont pas nés ex nihilo. Ils sont l'héritage d'une société démocratisée à quelques degrés, processus qui était en marche, mais qui était en marche comme forme de vie sociale et qui impliquait toujours plus les individus dans l'élaboration des normes communes. La nation n'est rien d'autre que le nom qu'on veut donner à cet état de conscience, ce qui ne veut pas dire que la forme nation soit immuable, qu'elle ne soit pas appelée à varier dans un espace mondialisé où des instances transnationales viennent se surimposer à la production des normes par les États-nations, mais ce qui veut dire que l'on ne peut évacuer cette production normative propre si on veut continuer à penser la réalité des droits subjectifs et les défendre. Pour le comprendre, il faudrait avoir aujourd'hui le courage de travailler autrement qu'on ne l'a fait le concept de souveraineté nationale et qu'on le fasse pénétrer, ou qu'on fasse pénétrer en lui plutôt, la vision sociologique dans sa définition. Le nationalisme, les discours nationalistes et souverainistes ne sont pas sociologiques. Ils ne sortent pas de la définition politico-juridique de la souveraineté. D'ordinaire, quand on pense à la souveraineté et qu'on lit l'article 3, comme je l'ai fait, on la rattache à un kratos, à un pouvoir institué, dépositaire du pouvoir absolu de décision. Et même l'idée de souveraineté égalitaire ne change pas la donne à cet égard. Ce qui, en revanche, change la donne, c'est la perspective sociologique qu'on peut prendre sur ce concept. Avant Mauss, Durkheim, fondateur de la sociologie scientifique en France, avait commencé à le faire dans ses leçons de sociologie. Il nous disait en substance, « La souveraineté a été conçue comme un concentré de force, comme la plus grande des forces. C'est une erreur. Le sociologue voit dans la souveraineté tout autre chose. Il voit une idée. L'idée qu'une autorité existe qui est toujours plus haute et qui peut venir défaire les forces s'exerçant entre les individus et les groupes partiels. La souveraineté, ce n'est pas la plus grande des forces, c'est le point depuis lequel, dans l'esprit des individus, tout rapport de force peut être relativisé et critiqué. L'autorité a sa source unique dans la nation, mais elle l'a sur le mode de l'affranchissement et de la contestation. Pour le sociologue, la souveraineté est le nom que les sociétés ont donné à leur conscience de l'autorité, à même de libérer les individus d'un pouvoir qui ne serait pas leur en tant qu'ils forment une société. Voilà l'idée qui ne peut qu'outrepasser les frontières. Elle les dépasse en ce qu'elle expose toute société à penser et à mettre en pratique les conditions d'élaboration de son propre devenir démocratique.
Merci. Merci beaucoup, beaucoup Bruno Carcenti pour cette très belle intervention magistrale. On va donner maintenant la parole à Bruno Patino. Et vous allez voir que on va retrouver sur un mode très différent des problématiques qui sont assez proches finalement. Bruno Carcenti parlait de cette question. Qu'en est-il de l'autorité, de la contre-autorité, du collectif et du commun, de la démocratie, de la nation? Bien, Bruno Patino essaye aussi de penser ces sujets. Bruno Patino est un homme des frontières, véritablement. Je pense qu'on peut le dire. C'est un homme déjà qui porte les frontières en lui, puisqu'il parle français, mais il a longtemps rêvé en espagnol. Son père était bolivien, et sa mère française. Et puis, c'est quelqu'un qui se place en permanence, qui travaille autour des frontières aussi de la connaissance, frontières des mondes, entre le texte, le numérique, puisqu'il a été un des premiers en France à se placer vraiment volontairement au cœur de cette tempête qu'est le numérique et qui bouleverse toutes nos manières d'être et de penser. Il a été un des premiers, par exemple, à essayer de comprendre ce que la presse devenait après Gutenberg. Il a écrit ce livre avec son complice Jean-François Fogel qui s'appelle « La presse sans Gutenberg ». Il est de ceux qui essaient de nourrir la réflexion sur la manière dont l'aventure du journalisme et plus généralement d'une forme de pédagogie culturelle peut se poursuivre et s'intensifier dans l'univers d'Internet. Cette aventure à la fois médiatique et pédagogique, il l'a menée au Monde d'abord, puisqu'il faut rappeler que Bruno Patino est celui qui a fondé et déployé lemonde.fr, qui a fait du site du journal Le Monde le premier site d'information français. Et ensuite, cette aventure, il l'a poursuivie à France Culture, qu'il a dirigée. Et aujourd'hui, il l'amène à France Télévisions, où il est responsable, entre autres, justement, de tout ce qui a trait au numérique. À chaque fois, la question, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit du forum à nouveau, la question est pour lui est de rendre accessible au plus grand nombre, non seulement l'information, mais la connaissance. Et il a travaillé beaucoup sur cette nouvelle ère qui est la nôtre, qui est l'ère de la connexion permanente. Il vient de signer il y a quelques mois un livre, toujours avec Jean-François Fogel, qui s'appelle « La condition numérique », dans lequel il prend acte du fait que Internet n'est pas un média, que c'est vraiment une nouvelle conditions humaines, une nouvelle forme d'être au monde, que c'est maintenant notre façon de non seulement déterminer les contours de notre identité, mais d'aller à la rencontre de l'autre, de jouer, de lutter politiquement, etc. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il se place à nouveau à la frontière et à la charnière entre un vieux monde du texte et le nouveau monde du numérique, puisque par exemple, c'est très symbolique, il nomme chaque titre de chapitre par un titre de livre de classique, donc la condition humaine évidemment, les mots et les choses, l'ancien régime et la révolution, et à chaque fois c'est pour déployer un nouvel aspect de cette culture numérique qui nous met effectivement en permanence à la frontière donc je le répète, entre le papier et le numérique, entre ce qu'on appelle le print et le web chez nous, entre le texte et l'image, entre le récepteur et l'émetteur, entre le pouvoir et le réseau, entre la forme et le mouvement, dites-vous Bruno Patino, bref, entre un présent qui est le nôtre et qui, accéléré comme à la vitesse où il va, a tendance, comme vous l'expliquez, à se confondre de plus en plus avec le futur.
Je vais parler plutôt du côté de celui qui a découvert en le pratiquant le numérique et le réseau depuis maintenant une quinzaine d'années. Et lorsqu'on m'a demandé de réfléchir à cette notion de frontière, je me suis replacé tout de suite dans ce que disaient les inventeurs du réseau, Robert Kahn et Evin Cerf, qui ne voulaient pas créer quelque chose de particulier, mais seulement, comme il l'avait dit, un réseau des réseaux, c'est-à-dire un réseau de communication qui serait si fluide et si simple qu'aucun autre réseau n'aurait à être modifié pour pouvoir s'y brancher. Donc techniquement, il ne voulait pas englober un monde immense sous un seul pouvoir, mais seulement installer un endroit où justement l'ensemble du monde pourrait s'installer. Et en ce faisant, ils ont créé une sorte d'universalité. Et cette universalité est pour moi une rupture fondamentale, mais moins, et ça sera l'objet de ma petite intervention ce matin, moins dans le dépassement des frontières spatiales, mais plutôt dans l'installation de nouvelles frontières que j'appelle des frontières contextuelles. Avant de parler des frontières spatiales, Une évolution qui m'a toujours paru très intéressante lorsqu'on parle d'Internet, c'est l'évolution des mots qui sont employés pour le définir. Il se trouve que lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine, on parlait d'Internet comme d'un véhicule qui transportait des choses. On parlait de paquets, de données qui étaient transportées par des tuyaux, par des endroits. Internet était un véhicule et puis rapidement c'est devenu un espace. On a parlé de cyberespace, on pouvait s'y déplacer. Et on vivait tous dans l'idée d'un univers avec un Big Bang qui était en expansion permanente, mais d'un univers qui, à un moment donné, serait limité. Et puis, on est passé petit à petit de la notion spatiale ou des mots employés qui définissaient un cyberespace à une notion sociale. Et là, on a commencé à parler de réseaux sociaux, de contexte, et tout d'un coup, on n'était plus dans les mots de l'espace, mais dans les mots de la société. Mais dans cette évolution sémantique, on a donc deux approches par rapport aux frontières qui sont assez paradoxales. En clair, et si je devais le résumer, je dirais que sur le réseau, certains veulent mettre des frontières là où il n'y en a pas, mais en revanche, les internautes, eux, constatent qu'ils se frottent à des frontières permanentes en dépit de la nature universelle du réseau. Donc le premier point, le fait de vouloir recréer des frontières là où il n'y en a pas, dans un espace qui semble illimité, tient à une inertie relativement naturelle. Comme l'a dit Jean, on a beaucoup écrit avec Jean-François Fogel sur le fait que tout ou presque émigrait vers le réseau Internet, que le réseau Internet n'était plus une frontière entre le virtuel et le réel, mais au contraire quelque chose qui malaxe l'ensemble de ce qu'on peut faire dans la vie réelle et qui a donc des conséquences sur notre vie réelle, que ce soit la vie privée, la vie professionnelle, les espaces commerciaux, les écoles, les universités, l'écoute de la musique, les cabinets d'embauche. Et donc, comme on trouve vraiment tout en ligne, c'est presque sans surprise qu'on y découvre aussi une nostalgie des frontières qui existent dans le monde réel et que certains veulent installer sur un réseau qui ne les avait pas prévus. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, je vais en prendre, mais dans cette nostalgie de frontières, je vois d'une certaine façon une volonté de recréer. Vous savez, Raymond Aron, quand il parlait de l'ordre international, disait, pour reprendre cette vieille approche qu'on appelle libéral dans le domaine des relations internationales. À l'intérieur des frontières, c'est l'état de culture. Et entre états, entre nations, entre puissances, c'est l'état de nature. Et donc, il y a cette idée que Internet serait aujourd'hui un domaine où régnerait une sorte d'état de nature et qu'il faudrait reconstituer des frontières pour y remettre une sorte d'état de culture. Et donc, on peut trouver cette nostalgie des frontières à tous les niveaux. D'abord, au niveau de la famille, recréer des frontières entre enfants et adultes. Alors, c'est les outils de contrôle parental. Chacun d'entre vous sait que cette capacité technique est illusoire dans son imperméabilité, car la tentation de la transgression est trop forte, et quand l'ambition demeure, elle se fragmente, et très rapidement, on voit la migration vers des applications, des usages, où une frontière liée à l'âge a disparu. Mais la notion de vouloir rétablir des frontières peut aussi être au niveau des entreprises, au niveau des institutions, quand elles recréent ou créent des systèmes intranets extrêmement coûteux, de façon à interdire l'accès à certaines parties du réseau aux salariés pour le canaliser dans l'espace de travail, comme si, ce faisant, on pouvait reconstituer la délimitation extrêmement forte entre ce qui relève de la vie au travail et ce qui relève de la vie privée. Chacun d'entre vous qui utilise ces intranets sait très bien qu'à mesure qu'on les utilise, la façon de les contourner arrive aussi vite que l'intranet s'est créé et que, par ailleurs, la multiplication des outils qui permettent de se connecter sont autant de manières de contourner une frontière. Brider Internet revient à tenter partout de filtrer des ondes. Évidemment, on peut parler encore des États et des États qui essayent de recréer eux-mêmes des frontières face à la connexion par rapport à cet univers permanent. On peut parler de Cuba, qui essaye de filtrer l'ensemble de la connexion des citoyens cubains au travers de deux serveurs qui filtrent les noms de domaine et les sites interdits afin de préserver la population des contacts dits indésirables. On peut parler aussi de la Chine, où une grande muraille existe dans une version numérique et qu'on appelle là-bas le Grand Mur de Feu, qui est un dispositif qui vise à faire transiter par Pékin toutes les connexions d'un immense territoire afin de bloquer aussi bien les requêtes vers des sites que l'on veut maintenir hors d'atteinte, comme les entrées de contenu. Ce que je crois, c'est que, évidemment, on note une volonté farouche des États non démocratiques de remettre des frontières à l'Internet, mais je note également un désarroi des États démocratiques face à un univers que je ne saurais qualifier d'international, transnational, transversal, détaché du territoire en tout cas. Il y a une sorte d'extraterritorialité à la connexion permanente aujourd'hui. Et cette extraterritorialité, elle empêche les pays démocratiques, y compris comme la France, de respirer de façon très commode quand on est toutes ces responsables parler du numérique. Et on voit une volonté de normalisation qui apparaît en permanence et qui fait qu'au lieu de se soucier de voir la France s'installer puissamment sur un réseau en pleine expansion, les responsables demandent plutôt que chaque État trouve sur le réseau la part qui lui reviendrait et où s'appliquerait la perception de l'impôt, l'application de la loi nationale. Et c'est ce domaine-là ou ces forces-là que l'on constate aujourd'hui. J'y vois une nostalgie des institutions qui sont héritières du droit romain, où évidemment toute application du droit était liée à l'existence et à la délimitation du territoire. Mais par ailleurs, l'application aussi de la norme et de la loi semble aussi être durablement atteinte. Il y a un sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman qui a beaucoup réfléchi sur le domaine de la connexion, qui voit, je le cite, le symptôme de la séparation et du divorce en instance d'être prononcé entre le pouvoir et la politique. Un couple qui, depuis l'émergence de l'État moderne, paraissait promis à partager son domicile commun de l'État-nation. Et donc, d'un côté, il y aurait un État s'appuyant sur les notions de territoire et de nation, et de l'autre, un internaute ou des services Internet avec une connexion permanente au réseau mondial. On voit bien que là émerge un ordre qui semble dépasser ce qui existait en Europe depuis le traité de Westphalie en 1648, car les frontières, si elles ne sont pas totalement dépassées, sont brouillées. Windsurf, toujours lui, qui, créateur du réseau Internet, est devenu aujourd'hui une des personnes qui est utilisée par Google pour promouvoir l'Internet, dit qu'une partie de ses illusions tient au fait qu'évidemment, pour utiliser Internet, on utilise du matériel qui sont sur un territoire. Et donc, à partir du moment où on utilise ces choses-là, on a cette illusion qu'une juridiction nationale peut s'appliquer. On le voit bien aujourd'hui, dans tous les moments, l'utilisation des réseaux sociaux, la transition des messages, pour ne pas parler du piratage des contenus, les États sont dépourvus par rapport à ça. Et un prix Nobel comme Elinor Ostrom n'y voit comme seul arrangement que l'émergence d'arrangements institutionnels, une cogestion de souveraineté qui devrait, à un moment ou un autre, émerger de façon à arriver à créer une sorte de régulation internationale. Par rapport à cette demande-là, j'y vois pour ma part une nostalgie, encore une fois, la nostalgie de la paix universelle, la nostalgie du dialogue entre Kant et Rousseau sur la façon de faire émerger un gouvernement mondial qui arriverait à assurer une paix universelle. Bref, j'y vois une illusion. En revanche, cette nostalgie des frontières spatiales ne doit pas nous faire manquer de lucidité face aux trois nouvelles frontières que j'appelle contextuelles, qui arrivent, auxquelles est soumis chaque internaute, chaque utilisateur de la connexion permanente. Ces trois frontières, on n'a pas trouvé aujourd'hui de moyen de s'en affranchir, et ce sont pour moi les trois frontières qui délimitent le débat politique, au sens premier du terme, de l'Internet qui arrive et de la connexion que nous utilisons tous. La première, je voudrais reprendre pour cela une citation de Marshall McLuhan. Il disait quelque chose comme ça, il disait « Dès lors qu'on est connecté les uns aux autres sur un réseau fonctionnant à la vitesse de l'électricité, c'est quelque chose qui a été écrit dans les années 60, promettait-il, on verra des centres partout et des marges nulle part. Or aujourd'hui, l'Internet qui s'est créé pour chacun d'entre nous n'existe pas de façon déconnectée à nous-mêmes. Chacun d'entre nous se positionne aujourd'hui au centre de sa propre expérience. On ne peut jamais se poster en périphérie pour voir son monde de profil ou de loin. Notre Internet, nous le bâtissons nous-mêmes par notre navigation. Et notre voisin bâtit son propre Internet lui-même par sa propre utilisation. Et donc, Internet et tous ses outils aujourd'hui nous renvoient une parfaite image en évolution de ce que nous sommes nous-mêmes. Et chacun d'entre nous est au propre centre de sa propre expérience, mais ne peut pas se rendre compte de l'expérience de l'autre. Alors certes, il y a des chemins de traverse. Pour ceux d'entre vous qui utilisent Facebook, si vous connaissez assez bien l'outil, vous pouvez à un moment donné demander à voir quelle est la page, votre page personnelle, telle qu'elle peut être vue par un anonyme du réseau et non pas par vos propres amis ou par vous-même. Mais ce sont des échappées minuscules Et cette propre frontière contextuelle-là, de ne jamais pouvoir dépasser notre propre centre, est aujourd'hui quelque chose à laquelle nous sommes soumises sans parfois nous en rendre compte. La deuxième frontière contextuelle à laquelle nous sommes soumises aujourd'hui dans la connexion, c'est celle d'être condamnés à vivre au présent. J'aime beaucoup la chanson des Smiths qui dit « How soon is now ?» C'est bientôt maintenant, ben maintenant c'est tout le temps. Maintenant, le réseau ne fait qu'une seule promesse et qui la tient, c'est de saturer le présent dans une approche que l'on peut décrire comme l'immédiateté. Ce présent est chargé du passé, mais d'un passé écrasé qui nous est encore et toujours présenté. Et d'ailleurs, il y a une terminologie spécifique qu'on utilise sur Internet. Maintenant, on parle du temps réel, comme si la seule réalité, c'était de vivre maintenant et que tout le reste n'était plus réel. Le présent des réseaux n'est pas celui de la vie réelle, c'est un présent électrique, ultra ponctuel, réactif et qui pourtant s'appuie sur des mécanismes de stockage et de recherche qui rendent en permanence accessibles tous les contenus du passé. On pourrait aussi citer Elvis Presley qui disait « J'ai oublié de me souvenir d'oublier. Chaque internaute est condamné à vivre un présent qui n'est jamais coupé d'un passé parfaitement maîtrisé. » La troisième frontière, pour terminer, contextuelle à laquelle nous sommes soumises, c'est celle du nuage. Alors, vous vous souvenez de ces dessins animés, pardon, ou de ces bandes dessinées, où on voit ces individus qui sont suivis par un tout petit nuage sur lequel il pleut, qui fait pleuvoir en permanence, et alors ils se déplacent, et en permanence, le nuage chargé de pluie se déplace avec eux, et donc ils croisent des gens qui sont en plein soleil, et eux-mêmes, leurs petits nuages les suivent et font pleuvoir. Et bien, Internet, d'une certaine façon, c'est ça. On est suivi par notre propre nuage. Alors, jusqu'à présent, il y a eu trois générations dans l'Internet. Il y a eu ma génération qui a connu le temps du modem, c'est-à-dire la connexion temporaire. Tiens, on se connecte pour 1 minute 27, 2 minutes. Puis il y a eu l'Internet de la DSL branchée en permanence, qu'on a appelé le Always On. Et maintenant, la génération du nuage, c'est non seulement le fait d'être connecté de façon permanente, mais d'être connecté de façon permanente à des outils, des algorithmes qui connaissent en permanence des choses sur moi, sur mon comportement, sur qui je suis, et qui ont stocké mes données, tout ce que j'ai produit et tout ce que j'aime. Alors ces nuages, ça a une existence, hein, c'est des fermes de serveurs, de centaines de milliers de serveurs qui sont dans tous les endroits de la planète et qui aujourd'hui sont utilisés par les sociétés que vous connaissez, que ce soit Google, Amazon, Twitter, LinkedIn, etc. Mais ce que l'économiste en chef de Google appelle l'innovation combinatoire, c'est Al Varian qui appelle de ça, c'est-à-dire le fait d'avoir des données sur vous et de les faire combiner à des formules mathématiques, fait que d'une certaine façon, la troisième frontière contextuelle à laquelle on est soumise, c'est ce nuage permanent qui sait des choses sur votre comportement. Et donc vous ne pouvez jamais vous échapper de vous-même, parce que tous les algorithmes qui vous suivent, ce sont des algorithmes qui connaissent l'historique de vos comportements et qui veulent, parce que le pari du déterminisme ici a été pris par ces sociétés-là, vous donner à chaque fois plus de vous-même. Je cite souvent cette phrase terrible d'un des patrons de Google qui me dit « Le but de Google, c'est de savoir avant vous-même ce que vous allez chercher et d'être capable de vous donner la réponse à une de vos recherches avant même que vous ayez pu exprimer cette recherche-là. » Et donc aujourd'hui, ces nuages-là ne sont pas les merveilleux nuages dont parlait Baudelaire, qui permettent une vie rêveuse et sans attache, mais au contraire, des nuages qui vous attachent en permanence à ce qu'a été votre comportement et à ce qu'on pense être votre propre déterminisme. Les trois frontières donc contextuelles à quelles sont soumises aujourd'hui les internautes, c'est ça, c'est l'expérience immédiate dont on est le centre et qui nous attache à notre propre comportement en permanence. Nous sommes engagés dans un environnement d'information électrique qui nous est pratiquement aussi imperceptible que l'eau peut l'être pour les poissons. Cette phrase-là n'est hélas pas de moi, elle est de Marshall McLuhan et elle date des années 60. Mais nous sommes rentrés aujourd'hui dans un univers qui nous a enlevé les frontières spatiales pour nous enfermer dans un carcan de frontières contextuelles.
Merci. Merci beaucoup Bruno Patino pour cette très belle intervention. Je voudrais maintenant donner la parole à une figure extrêmement originale, rigoureuse et en même temps discrète de la scène philosophique française, Catherine Perret, qui a publié un livre qui s'appelait Walter Benjamin sans destin, un livre dans lequel Catherine Perret fait un sort particulier à cette formule, pardon Bruno Patino, ce n'est pas Elvis Presley, mais c'est Walter Benjamin, bon, ça vaut quand même le coup de le citer, qui parlait du caractère destructif. Et il disait, là où les autres butent sur des murs et des montagnes, même là, ils voient le chemin. Walter Benjamin était un homme de la frontière. Vous lui avez consacré, Catherine Perret, vos premiers travaux. Et dans ce livre que je citais, vous reveniez aussi longuement sur le rapport entre Benjamin et l'image, la question de l'image. Et parmi les chemins de traverse, vous aussi, que vous avez empruntés, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur l'esthétique, sur les rapports entre esthétique et politique, sur la question de l'exposition, de l'expositif, comme vous dites. Et on peut dire que, et je voulais insister là-dessus, vous faites partie des philosophes qui aiment bien, non pas brouiller les frontières, mais se balader, rôder autour des frontières, les transgresser, les dépasser, notamment du côté de l'art et de la littérature. Je voulais insister également sur le fait que vous appartenez, vous inscrivez vraiment dans cette tradition qu'on aime beaucoup ici au Forum, des philosophes écrivains pour qui il n'y a pas de vrai savoir sans style, de vraie pensée sans prose. Et il y a chez vous vraiment une vraie écriture très intense et très féconde. On le constatera notamment en lisant votre tout dernier livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui s'appelle « L'enseignement de la torture ». On est sur une autre scène, là, tout d'un coup. Un très bel essai dans lequel vous commentez les textes de Jean Améry, qui est une figure célèbre de la déportation, et des textes sur la mémoire de la déportation et la pensée de tout ce qui a eu lieu à ce moment-là. Et vous mettez dans son sillage pour réfléchir aux enjeux de la torture, et notamment à la question du corps et de la peau comme frontière. Avoir la peau de quelqu'un, dites-vous, c'est repousser la frontière de sa vie. La question de la frontière, c'est la question de la peau comme frontière sensible, comme frontière identitaire et comme frontière politique également. Catherine Perret, merci.
Je voudrais placer cette intervention sous les auspices d'un auteur français qui s'appelle Robert Antelme, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « L'espèce humaine ». Après la Seconde Guerre mondiale, il avait été déporté. Et de ce livre, je vais extraire une très courte phrase qui fait partie d'une prosopopée où il s'adresse, Antelme, donc l'ancien déporté, s'adresse à ses bourreaux nazis. Et voilà ce qu'il écrit. « Vous avez fait en sorte que désormais, nous ne pourrons plus jamais être à la fois à notre place et dans notre peau. La première frontière dont nous faisons l'épreuve, je crois tous, c'est la peau. La peau que nous voyons et qui délimite ce que chacun de nous appelle son corps. La peau que j'habite, comme disait le titre d'un film récent de Pedro Almodovar, que vous avez peut-être vu. C'est pourtant de cette évidence première que j'aimerais nous déloger quelques instants, en tout cas, en renversant la perspective traditionnelle, celle qui met chacun à l'abri de sa peau, et en nous demandant aux uns et aux autres, le corps que cette peau, ma peau semble délimiter, est-il bien mon corps ? Face à une telle question, chacun naturellement retourne inquiet à son miroir et il va regarder les contours de son visage. La peau n'est-elle pas le masque visible de son identité ? Comme le disait le philosophe Frantz Fanon, hein, peau noire, masque blanc. Chacun de nous ne porte-t-il pas à même sa peau le blason de son identité nationale, sociale, culturelle ? Au point qu'il y a scandale à le redessiner, ce blason, comme l'a montré récemment l'exemple de cette artiste contemporaine que je crois tout le monde ici doit connaître, Orlan. Et n'y a-t-il pas scandale encore plus à toucher ce blason ? Au-delà du corps, la peau désigne le seuil à ne pas franchir au risque de violer la loi, la décence ou la pudeur. Elle renvoie à l'interdit du toucher qui est au principe des sociétés humaines. Interdit de toucher le corps d'autrui, hors de normes et de situations très précisément fixées. Interdit de se toucher, hein, nous le savons bien, nous occidentaux, hein, sauf à reproduire sur son corps des marquages identitaires qui font partie significative de la société où nous vivons, que ce soit les tatouages, les maquillages ou aujourd'hui évidemment les piercings, hein, que nombre de vous sans doute portent. À première vue, la peau semble donc délimiter un corps clos, renvoyant à l'atome social qui est devenu l'individu. Et cette représentation est tellement forte même qu'elle contamine la plupart des représentations du collectif. C'est ainsi qu'on dit « un pour tous, tous pour un », où le tous est fantasmé sur le même modèle
que le 1. On parle d'ailleurs de corps de l'État, de corps social, de corps politique, de corps administratif. On peut en France quitter son corps, hein, certains quittent le corps, j'ai été menacée moi-même de quitter un jour mon corps. Et à chaque fois, ce qui se rejoue en réalité, c'est la représentation d'un corps 1, cadré par une frontière qui l'isole. Comme si la peau barrière, la peau sac, la peau contenant, était le paradigme même de la frontière, des autres frontières. Bien qu'elle nous colle à la peau, tout invite à dépasser cette représentation d'une peau forteresse, défendant un corps identique à son image, érivé à son identité. Tout d'abord, la langue. Écoutons-la. Aller au pieu, comme on dit en français, c'est, croit-on, retourner dans son lit. Mais si on écoute bien l'étymologie du mot pieu, en fait, aller au pieu, ça veut dire retourner dans sa peau. Hein. Pieu, peau, c'est le même mot latin, pelis. La langue signale ainsi qu'il y a au moins deux peaux, celle dans laquelle nous dormons et celle avec laquelle nous nous promenons dans le monde. Qui de nous n'a pas fait le cauchemar de se retrouver nu comme un ver, dépouillé de sa seconde peau sociale? Mais la langue va encore plus loin, car lorsqu'elle dit dans un même élan « sauver sa peau », c'est-à-dire sauver sa vie, et risquer sa peau, risquer la mort, c'est pour indiquer que l'on ne sauve sa peau qu'au prix de la mort, réelle ou symbolique. Nous savons tous que, à la honte de déchoir de son statut ou de manquer à sa parole, il n'est pas rare qu'un individu préfère le suicide ou la mort. On a là le signe que la vie dont la peau est la métonymie et l'autre nom, ne signifie pas la vie biologique, mais une vie qui, comme l'indique l'affect de honte, celle qui pousse à se suicider ou à mourir, a du rapport avec le masque social. Et ce que je voudrais montrer, en ces quelques minutes, c'est que peut-être cette vie dont la peau est le nom, eh bien, ne se réduit pas au masque social et que, au-delà du masque, ce à quoi elle renvoie, c'est au lien social. On voit ainsi que la langue multiplie cette frontière qu'est la peau. Il y a la peau du corps animé, le sujet biologique. Il y a la peau du corps parlant, celle du sujet social. Il y a enfin la peau du corps vivant, celle du sujet politique, celle du nous, dont je voudrais indiquer la trace. Ces peaux ne se confondent pas, et leur triplicité nous conduit même vers une quatrième instance, une quatrième peau que je voudrais appeler le « nous peau », en référence au livre de Didier Anzieux, ce très grand psychanalyste qui a écrit un livre qui s'appelle « Le moi peau ». Après la langue, la science invite elle aussi à dépasser la représentation traditionnelle et cosmétique de la peau. Au XVIe siècle, le très célèbre anatomiste Vézal, déjà a crevé le sac de la peau, il a soulevé la surface de l'épiderme et il a exposé des écorchés dont la peau pend, hein, un peu comme des gants, comme des mitaines trop longues. Mais longtemps, la question de la médecine a été plutôt de disséquer les corps pour essayer de comprendre ce qu'il y avait sous la peau. Et il a fallu le milieu du XXe siècle, donc très très tard, pour que la peau soit abordée autrement que comme une enveloppe, comme un contenant. Et je voudrais citer trois noms qui sont essentiels. D'une part, le nom d'Ashley Montagu, qui est une dermatologue et surtout une psychologue, donc texte de 1953. Les noms de Georges Canguilhem, qui a écrit un texte magnifique, hein, « L'homme de Vézal dans le monde de Copernic », 64, et le nom de François Dagonier, qui a écrit ce livre très beau qui s'appelle « La peau découverte », en 98. Les recherches contemporaines en biomédecine nous apprennent ainsi que le tégument tapisse la surface entière du corps, externe et interne, qu'il n'est troué que par les orifices de ce corps, et que cette surface, comme on dit, n'est ni un contenant inerte, ni une interface, mais véritablement un organe actif, l'organe de la sensation est d'ailleurs le seul organe qui ne soit pas, à ce jour, substituable. C'est un organe qui, d'ailleurs, pris comme perspective sur le corps humain, sur un corps dont il faut toujours se rappeler que l'intérieur est vide, parfaitement vide, nous montre ce corps en 3D comme une chambre à air. Nous voici donc très très loin du miroir, du visage et de la ressemblance de l'homme à son image. La dermoscience nous apprend aujourd'hui que la peau se définit de trois propriétés. La porosité, la peau est un seuil. L'ubiquité,
La peau est un support de transmission. Et enfin, une troisième propriété sur laquelle je vais insister, qui est la proprioception. La peau est un système réflexif autorégulé. Poreuse, la peau exsude et absorbe sans cesse de manière à régler les échanges entre le corps et son environnement et à régler les phénomènes d'immunité. Elle est un milieu. Ubiquitaire, la peau met en relation non seulement les membres du corps et ses organes, mais les différents systèmes physiologiques, système nerveux, système circulatoire, système endocrinien. Du bout des doigts aux cavités cérébrales, des viscères à la pointe des cheveux, ce qui semble border le corps est en réalité le foyer des échanges qui permettent à l'ensemble de ce corps de se toucher en tout point simultanément et ainsi d'être en contact permanent avec lui-même, de se parler. C'est pourquoi d'ailleurs les douleurs organiques les plus atroces, hein, et celles qui sont occasionnées d'ailleurs par les formes de torture modernes, je ne peux pas totalement m'empêcher d'en parler, proviennent de l'isolation sensorielle. C'est-à-dire qu'en rendant la sensation impossible, ces techniques coupent non seulement la relation entre la peau et le monde ambiant, mais entre la peau et le corps dont elle est le médium. Ces tortures opèrent donc un dépeçage, véritablement, un dépeçage invisible qui n'est pas moins horrible comme le supplice des 100 morceaux dont parlait Georges Bataille, hein, le grand philosophe et anthropologue du XXe siècle, dans un livre qui s'appelle « Les larmes d'Eros ». Ces deux propriétés, donc la porosité et l'ubiquité, reposent en réalité sur une troisième propriété mal connue, très très importante, qu'on appelle la proprioception. Il s'agit là d'une sensibilité profonde du corps qui passe par les faisceaux neuromusculaires et par les organes neurotendineux et qui confère au corps la capacité de sentir l'influx nerveux venu de ses propres organes. La proprioception désigne donc une faculté qui est en partie réflexe et en partie consciente que le corps possède de percevoir à la fois la position de ses membres, leur coordination et leur tonus respectif. Elle conditionne la sensibilité à l'attraction terrestre, donc, dont dépend notre équilibre dans le monde, et par conséquent, la possibilité du mouvement, qu'il soit involontaire ou volontaire. Si donc l'on peut faire de la peau l'organe de la sensation, et non pas simplement une surface sensible, c'est grâce ultimement à cette faculté de proprioception qui convertit la sensation de soi en perception de soi, ce qu'on appelle la somesthésie, avec un mot un peu barbare, en kinesthésie que vous connaissez sans doute mieux, c'est-à-dire ultimement en geste. Ce qui distingue cette troisième propriété des deux premières, ce qui en fait véritablement une faculté au sens propre, un pouvoir, c'est sa dimension consciente. C'est ainsi qu'en explorant à partir de la proprioception cette frontière que serait la peau, nous sommes renvoyés à une instance qui est à la fois apparemment la plus intime, le se sentir, hein, et qui en même temps est construite, c'est-à-dire qui est éducable. Après le terrain de la langue et après le terrain de la science, il faut alors se déplacer sur un troisième terrain, c'est le terrain de l'anthropologie. Et là, je vais reparler d'un auteur dont a parlé tout à l'heure Bruno Carsanti, qui est Marcel Mauss. La proprioception est une fonction qui est construite, véritablement depuis l'extérieur du corps, par des techniques que Marcel Mauss appelle les techniques du corps, dans un texte très important, des techniques qui, dès les premiers mois de la vie de l'enfant, pallient à ce qu'on appelle la prématuration du nouveau-né et qui opèrent ce qu'on appelle aujourd'hui l'extérogestation, c'est-à-dire cette très longue période de 9 mois au cours desquelles l'enfant sorti du ventre eh bien, continue en réalité d'être habité par un processus de gestation. Alors ces techniques du corps qui rendent le nouveau-né viable, c'est bien sûr toutes les techniques de bercement, de portage, tous les chants, hein, tout ce qui véritablement va constituer les enveloppes de l'individu. Ces techniques du corps sont ensuite les techniques qui vont appareiller l'enfant de toutes les prothèses qui sont nécessaires à la conquête de son autonomie. Et puis ces prothèses, naturellement, elles deviennent artificielles à travers tout ce qui est de l'appareil photo, hein, au disque dur de nos ordinateurs et bien sûr aux organes artificiels, hein, comme le fameux mollet de Oscar Pistorius, hein, la chose la plus rapide du monde, comme il se nommait lui-même.
Alors, ce qui est évidemment essentiel toujours, c'est de se souvenir que, de quelque nature que soient ces prothèses, dont les techniques du corps arment notre corps, mais en même temps le rendent viable et vivant, eh bien, ces prothèses sont artificielles. Et à travers elles, la proprioception, elle s'éduque, elle se travaille, elle s'exerce. Cette fonction réflexive de se sentir, qui est apparemment si intime, relève donc de ce corps dont Marcel Mauss dit qu'il est le premier objet technique et le premier outil technique de l'homme. Et par là, il veut dire ce corps qui est un montage de fonctions physio, sociaux, psychologiques que chacun de nous acquiert en fonction du groupe humain dont il fait partie. Ce corps n'est pas mon corps, ce corps, c'est notre corps. Alors cette expression « notre corps », et je conclurai par là, il faut l'entendre en fait en deux sens, qui correspond à deux régimes du sentir, le régime de la sensation et le régime de la sensibilité. Et tout l'enjeu de mon propos, c'est d'arriver véritablement à distinguer ces deux régimes. Le premier sens de l'expression « notre corps », c'est celui de l'ensemble des techniques d'apprentissage qui appareillent les individus d'un même groupe sur le même patron et en vertu d'un même idéal de l'humanité. Il induit des manières de sentir communes, il collectivise la sensation. Le second sens de l'expression « notre corps » renvoie à la perception, c'est-à-dire à la sensation consciente, et qui est devenue consciente en étant non pas simplement éprouvée, mais rééprouvée, retrouvée en mémoire. Cette sensation, elle peut être retrouvée soit directement, c'est-à-dire que la perception la reconnaît et elle la retrace à l'identique, mais elle peut être aussi retrouvée indirectement via une autre sensation que la perception lui associe. La perception devient alors un phénomène de mue, un phénomène de mutation. Notre corps, ce corps dont je voudrais enfin faire surgir la silhouette, désigne non pas le corps qui nous moule suivant un même patron, mais le corps de ceux qui, du fait de leur histoire, histoire d'exil, histoire de guerre, histoire d'émigration, histoire de déchéance sociale, histoire de catastrophe psychique, ont été pris et ont dû s'engager, assumer ce travail de la perception, de la remémoration, de la traduction, de la réécriture qu'est la perception, et ont dû se déprendre volontairement de l'idéal humain collectif qui leur était proposé. Ils ont dû se faire un nouveau corps et réapprendre ainsi à sentir. Ce corps inventé dont je parle, ça n'est pas un corps collectif. C'est le corps du travail singulier de la mémoire assumée de chacun. Et pourtant, ce corps est commun. Il est commun à tous ceux qui ont dû abandonner la vieille peau de l'homme avec un grand H. C'est un corps singulier et commun à partir duquel ceux qui se souviennent différemment partagent néanmoins l'expérience d'avoir dû s'arracher à l'évidence de la sensation héritée. On voit ainsi que lorsque le corps touche et se touche, il s'éprouve ailleurs que là où le doigt se pose. La peau est donc ce qui fait du corps un organe entièrement médiatisé et immédiatement politique, dont les frontières sont prescrites à chacun par le « nous » auquel il s'est lié.
C'était le forum Le Monde, Le Mans, avec aujourd'hui Bruno Carsenti, sociologue et philosophe, Bruno Patineau, journaliste et essayiste, Catherine Perret, philosophe. Débat animé par Jean Birnbaum, prise de son Georges Otto, réalisation Isabelle Iuel. Demain vendredi, il sera question des frontières de l'art, avec François Morel, acteur, chanteur et chroniqueur, Céline Minard, écrivain, et Fatma Chérif, cinéaste.